Les élections départementales se déroulent les dimanches 20 et 27 juin. Quatre binômes se présentent sur le canton de Lisieux. Aujourd'hui, nous recevons le binôme sortant sans étiquette, Carole Charot. Bonjour.
Bonjour.
Et Bruno Nourry, bonjour.
Bonjour.
Carole Charot, vous êtes première adjointe au maire et Bruno Nourry, vous êtes le maire de Lisieux. Le cumul des mandats n'empiète-t-il pas sur l'une des deux fonctions, Carole Charot?
Alors, là, en fait, c'est pas forcément un cumul, c'est surtout une complémentarité des mandats. C'est comme ça que je le prends. Les projets municipaux, il faut les porter au niveau du département. Et quand on n'est pas dans la mairie, bah forcément, on peut pas porter ces projets municipaux au département. Donc, non, c'est plutôt un atout, vraiment. Et ouais. C'est presque obligatoire.
Bruno
c'est ça, oui. Département, ce sont les cantons, donc ça, c'est plutôt une assemblée de territoire, en fait. Donc on retrouve souvent, effectivement, des présidents de Comcom, des adjoints au maire, parce qu'il faut porter les projets municipaux au niveau du département. Je vais prendre un exemple. Le pôle solidarité que l'on va constituer, que l'on porte au niveau communal, va regrouper un certain nombre de services communaux et départementaux. Dans les services départementaux, il y a la maison des solidarités et de la famille, et c'est important qu'il soit accolé au CCAS, par exemple. Donc ce projet-là, il est forcément porté en adéquation avec le département. Donc on peut pas être dans un conseil municipal et voter contre ce genre de projet et après aller porter ce projet-là au niveau du département. C'est la même chose sur le pôle culturel, où ce pôle culturel, la partie bibliothèque qu'on a engagée dès 2015, ça a été avec le service des bibliothèques de Vendée, donc le département qui nous a accompagnés sur ce genre de projet.
Pour être clair, il y a un financement du département.
Ah ben oui, bien sûr. Et puis tous les cofinancements départementaux qui sont fléchés sur les projets communaux, c'est forcément une négociation entre la commune et le département. Et donc c'est important que ce soit aussi l'exécutif local, donc maire ou adjoint au maire, qui puisse défendre leur projet au niveau du département et pas le faire porter par des gens qui ne porteraient pas ce genre de projet. Les élections régionales, c'est complètement autre chose. Les scrutins de liste, c'est complètement autre chose. Mais ces élections départementales, il faut absolument que l'exécutif local puisse porter ses projets au niveau du département. Et puis, sur Lisieux, le département porte un certain nombre de sujets. Hein. Il y a le bateau, je pense qu'on
la va... La compagnie du continent,
ouais,
oui. On va y venir.
On va y venir. Il y a la gestion des ports. Les ports appartiennent au département, donc Port Joinville, le port de la Meule. Les espaces naturels, c'est une compétence qui est départementale. Donc c'est important pour nous, en charge de la commune, de pouvoir avoir une vraie adéquation avec le département pour porter les projets municipaux dans une vision globale de la commune. Donc c'est pour ça que Carole parlait de complémentarité des mandats, mais c'est exactement ça.
Quelle compétence du département est selon vous la plus importante pour le canton de Lisieux?
Ben, la plus importante, il y a...
Ou elle est plus importante.
Ouais, elle est plus importante. On a parlé tout à l'heure de la desserte maritime, hein, qui est une compétence régionale qui a été remise en gestion au département à notre demande. On s'est battu pour ça, pour que Lisieux continue d'être représenté dans le conseil d'administration de la régie. Je pense que c'est fondamental et qu'il y ait cette relation de proximité.
Est-ce que ce mix entre région et département va rester?
Oui, il n'y a pas de raison que ça change. Maintenant, faut toujours se battre pour maintenir les choses, parce qu'on le voit bien en Bretagne, c'est devenu régional. En Bretagne, les liaisons maritimes, ce sont des délégations de services publics, et les élus locaux dans les îles n'ont absolument pas la main sur les politiques qui sont développées. Donc nous, on tient à pouvoir siéger dans le conseil d'administration de la régie pour peser sur les décisions, discuter des dispositions, etc. Ça va de les cartes insulaires. Aujourd'hui, c'est le maire qui les signe. Il les signe pas sur un coin de table, hein, parce que On a une commission pour discuter des cas particuliers et donc avec des forces vives de la population, ça c'est important.
Notamment les professeurs qui viennent sur l'île-Dieu.
Par exemple, ça fait partie des cas particuliers, mais
parce que vous parlez de cas particuliers,
ouais, il y en a d'autres. C'est pas le propos d'aujourd'hui d'aller dans le détail, mais plutôt sur ce mode de fonctionnement. Et en fait, si le maire de l'île-Dieu signe les cartes insulaires, c'est par délégation du département. C'est une délégation de signature. Donc, c'est important de le maintenir, de continuer de se battre pour que ce soit toujours à l'île-Dieu qu'on délivre ces cartes insulaires. Alors, la compétence la plus importante, pour l'île-Dieu, on voit souvent le bateau ou le port, mais la principale compétence des départements en général, c'est la compétence sociale, qui vont de la petite enfance
aux personnes âgées,
au handicap, et ça c'est le plus gros budget du département, et ça a son importance aussi sur l'île-Dieu.
Carole Jarreau.
Justement, par rapport au niveau social, ce qu'on oublie souvent à l'île-Dieu, c'est qu'il y a beaucoup d'agents départementaux qui viennent sur l'île-Dieu, justement pour intervenir dans le niveau social.
Notamment l'MDPH.
Alors, la MDPH, ça en fait partie. Justement, on veut, nous, militer pour une permanence au moins annuelle de la MDPH.
Ouais,
ça paraît, ça serait bien que ce soit
très régulièrement.
Voilà, pour éviter que les personnes en situation de handicap partent sur le continent, voir la MDPH. C'est une des combats qu'on va mener. Mais je voudrais revenir sur la MDSF, c'est donc la Maison Départementale de la Solidarité et de la Famille.
J'allais vous poser la question, Carole.
Voilà, donc en fait, il y a des assistantes sociales qui viennent une fois par semaine. Il y a aussi des puéricultrices, donc qui interviennent dans la protection maternelle et infantile. Ça, c'est une compétence très importante du département. Et puis aussi, une psychologue, une sage-femme, plein d'agents qui viennent comme ça. Il y a quand même 111 familles qui en ont bénéficié en 2021, par exemple.
Cette maison va voir le jour quand, sur l'île-Dieu ?
Alors, elle existe déjà.
Ce regroupement, vous préférez le regroupement ?
Ce regroupement, il va avoir lieu au niveau, en face du collège. Ça va regrouper donc le CCAS, donc le Centre Communal d'Action Sociale, le Réseau d'Assistance Maternelle, l'ADMR, et puis aussi, bien sûr, le multi-accueil et la MDSF. Donc, ça va se terminer, je crois, fin 2023, Bruno, à peu près.
Si tout va bien, on va dire fin 2023. Mais ça a été vraiment une concertation étroite entre le département et la commune. Il nous a paru opportun de regrouper l'ensemble des intervenants sociaux au même endroit pour une meilleure synergie. Sinon, quelqu'un qui a une problématique va aller au CCS, on renvoie vers l'assistance sociale qui est dans un autre bâtiment, etc. etc. Et je pense que pour la coordination de ces acteurs sociaux, c'est une bonne chose qu'ils soient tous regroupés. Et puis voilà, même le multi-accueil, c'est sous l'égide aussi du département, même si c'est géré et porté par la commune. Le nombre de places, etc., tout ça est déterminé par le département. Donc c'est important d'avoir cette étroite collaboration sur tout le système social, en particulier sur l'île-Dieu.
Et il y a même un agent départemental qui est à demeure aussi ici,
oui.
Qui s'occupe des personnes de plus de 60 ans, qui fait le lien entre les différents services. Et elle est très appréciée parce que justement, elle est ici tout le temps. Elle peut aller à domicile chez les personnes âgées.
Ouais, ça c'est en fait anciennement le CLIC, donc qui a été intégré dans les départements. Avant, c'était porté par des structures connexes. Donc c'est ça, cette personne-là, par exemple, quand il y a des retours d'hospitalisation, c'est pour coordonner les acteurs locaux, pour sur de l'aide à la personne. Et ça aussi, c'est fondamental qu'on puisse avoir ce poste sur les lieux, et on entend bien le maintenir.
Le portage de repas pour les personnes âgées, c'est géré par le département ou la commune, ou c'est également un mix des deux ?
Non, ça c'est la commune, donc je ne vais pas m'étendre dessus, si ce n'est que on compte...
Claire, vous parlez de cette problématique dans votre programme,
oui,
le portage de repas.
Oui, en fait, c'est que le département avait cofinancé le véhicule. Donc ça fait partie des cofinancements qui sont fléchés sur des projets communaux. Donc c'est là où on a une négociation permanente sur le fléchage de ces subventions.
Ces négociations, comment que ça se passe ? Ça passe en commission ?
Bah, ça passe entre nos services et puis nos élus, et puis les services départementaux. Donc,
vous là, allez au département et vous tapez sur la table.
Non. Non, c'est le contrat.
Non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, comment que ça se passe.
C'est le contrat vend des territoires, donc il y a une somme qui est dévolue à l'Île-Dieu d'un peu plus de 800, presque 850 000 euros pour 4 ans, où on flèche un peu là où on a des besoins de financement. Donc ce sont des discussions. Hein,
pour l'Île-Dieu, notamment,
on n'est pas à couteau tiré, loin s'en faut, mais notamment... là où dans les négociations il peut y avoir des choses importantes, c'est par exemple le montant, ce montant que je vous dis, il a été doublé dans le cas de l'Île-Dieu pour l'insularité. C'est là en fait où
on c'est grâce à l'insularité que ce montant a été doublé.
Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc ça permet, voilà, c'est de représenter l'île aussi, la commune et ses habitants dans les contraintes insulaires et de pouvoir voilà porter cette différence. Et c'est pour ça qu'on a un tout petit canton et qu'on a réussi à le maintenir, parce que c'est important sur un canton insulaire où on a des problématiques particulières, et c'est important de faire entendre notre voix. Maintenant, sur ces négociations sur les subventions, ça se passe avec le service départemental qui porte la gestion de ces subventions. Alors il y a des règles, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on ne peut pas tout subventionner. Il y a des choses qui sont déjà subventionnées par ailleurs, donc voilà, on flèche et c'est avant tout un travail technique. Encore une fois, il n'y a pas forcément besoin de taper sur la table, mais néanmoins. Sur le contrat de relance ou
contrat de relance.
Oui, en fait, il y a une dotation complémentaire pour concernant ce
contrat vendé territoire.
Ouais, et qui nous a, enfin, Carole s'est beaucoup battue là-dessus pour que.
Expliquez-nous, Carole Charbot.
Alors, en fait, c'est le fonds de soutien, ça s'appelle, et oui. C'est en fait un fonds de relance exactement. C'était normalement dévolu à des projets nouveaux. Et puis moi je suis intervenue, j'ai dit mais non, ça faut pas que ce soit des projets nouveaux, faut que ce soit des projets déjà subventionnés par le département. On en a besoin avec le Covid qui vient de passer par là, on a des retards de livraison, on a des matériaux en retard, enfin bref, on a des soucis. Donc il faut absolument que ces projets ce soit pas des projets nouveaux, ce soit des projets déjà subventionnés. Donc ils ont changé le règlement, ça a été une négociation lors de réunions, et on a eu quand même 144 000 euros pour les train de bottes. Là aussi, c'est pareil, c'est des projets municipaux. Si j'avais pas été dans la commune, voilà, j'aurais pas été au fait des besoins de la commune.
Bruno Nourri, Carole Charot, vous nous avez parlé des ports, c'est une compétence également du département. Quelles sont vos propositions pour les 6 ans à venir?
Alors, les ports...
Ou c'est une continuité de ce qui a été déjà fait?
Les ports, il y a plusieurs choses. Les ports donc appartiennent au département, hein, que ce soit Port Joinville ou le port de la Meule, est mis sous concession avec la Chambre de commerce. Cette concession arrive à terme en 2027. Donc on sera encore en mandat si d'aventure les îlets nous font confiance. Donc il y aura une négociation sur savoir comment serait reconduit ou qui sera en charge de cette concession. Donc ça, c'est un point qui est important à évoquer. Après, sur le port, dans les besoins, le département va financer en direct un certain nombre d'équipements. Et
pour
le concessionnaire.
Pour le port de la Meule ou pour Port Joinville?
Les deux. Un certain nombre d'équipements qui sont plutôt de l'ordre des infrastructures portuaires. Par exemple, les pontons pêche qui ont été mis dans la première darse de Port Joinville, ça a été le département qui les a portés. Donc, on travaille en liaison avec le service maritime. On était plutôt d'accord pour que ces pontons se fassent. Ça facilite quand même le travail des pêcheurs. Donc, c'était une chose. Il y a par exemple, le ponton de la SNSM qui s'est mis au coin de cette première darse aussi a été porté par le département. Le département, il y a un sujet qui va être important, c'est la jetée de la galiote, sa déconstruction et sa reconstruction.
Alors, est-ce que vous allez leur construire à l'identique?
Non, ce ne sera pas à l'identique, parce que techniquement, c'est compliqué. C'est quelque chose qui va te coûter très cher. Hein. La déconstruction, c'est une enveloppe prévue aux alentours de 700 000 euros. La déconstruction. Et la reconstruction, comme c'est un élément patrimonial, il y aura un cofinancement, sera demandé à la ville, donc à la commune, un cofinancement. Dans quelle proportion, comment ça va se passer, ça fera partie
des négociations.
C'est ça. Et voilà, on voit bien que les choses ne sont pas étanches entre le département et la commune. Après, on a aussi un projet de réhabilitation de l'entrée du port de la Meule, et on entend que ce projet porté par la commune puisse être continué sur le reste du port de la Meule. C'est plutôt du qualitatif en termes de mobilier, etc.
Pour en venir à la Galiote, début de la déconstruction, quand?
Mais l'appel d'offres va être lancé cette année. Voilà, je ne sais pas si ça sera possible cet hiver ou ce sera l'hiver d'après, mais c'est bien dans les tuyaux, donc les choses vont se faire.
C'était un PPI, je crois, enfin un plan pluriannuel d'investissement qui s'arrêtait normalement, je crois, en 2023. Donc ouais, voilà.
Donc ça va être fait là dans soit cet hiver, soit l'hiver d'après. Ça va dépendre de comment vont répondre les entreprises. Si c'est trop cher, faudra voilà repasser un appel d'offres. Voilà.
C'est un projet à long terme.
C'est un projet à moyen terme plutôt, parce que encore une fois, c'est enclenché, donc les choses vont se faire. La reconstruction, ça va être quelque chose de complexe aussi financièrement, hein, parce que ça, la commune va participer, à quelle hauteur on ne sait pas encore, parce qu'on ne sait pas encore combien tout ça va coûter. Hein, c'est quand même un gros projet. Et puis après, il y a d'autres choses au niveau du port qu'il faut appréhender. Par exemple, il y a le nouveau bateau qui va venir.
L'Insuloya,
ouais, nouvel Insuloya, aura des grues électriques. Donc, il se branchera à quai pour éviter qu'on entende l'hydraulique lors des déchargements et puis de faire tourner les moteurs. Donc, ça nécessite une infrastructure électrique qui va être... En fait, la gare appartient au département, donc c'est le département qui va investir. Donc là aussi, c'est un montant.
C'est un petit peu complexe aussi, ce mix entre département et région tout de même.
Ben, c'est toujours complexe. Alors les réformes territoriales qui devraient simplifier les choses ont toujours tendance à les complexifier. Maintenant, voilà.
Là, vous parlez de la loi NOTRe, non ?
Ouais, de la loi NOTRe. Ben, qu'a retiré les clauses de compétence générale aux régions et aux départements. Donc voilà, c'est complexe. C'est complexe sur le transport scolaire, c'est complexe sur pas mal de choses, effectivement.
Le département conduit également la politique de protection des espaces naturels, notamment la côte sauvage. Y a-t-il des propositions à faire pour cette côte sauvage et des aides du département dans les mois ou années à venir?
Alors, il y a plusieurs choses. Le département a une zone de préemption sur les espaces naturels, hein, parce que historiquement, c'est pas le conservatoire du littoral qui intervient les lieux, c'est le département. Hein, ça, depuis la création du conservatoire du littoral en 77. Bon, voilà, c'était un choix qui a été fait à l'époque. Et le département détient plusieurs emprises dans les espaces naturels. Il y a le bois de la Citadelle, tout d'abord, qui appartient au département. Qui était un transfert de l'État, en fait, et puis sur les espaces naturels, où il y a un droit de préemption sur ces espaces. Nous, on a œuvré sur ce mandat pour étendre ce droit de préemption aux marais rétro-littoraux, hein, marais de la Guerche, marais de l'Ilia, etc., d'avoir un plan de gestion sur ces marais, mais aussi un plan de gestion sur ces espaces naturels. C'est bien beau d'acquérir des terres, il faut aussi gérer ces espaces. Alors c'est difficile quand on n'a pas d'entité cohérente. On l'avait fait par le passé, par exemple, on avait réussi à avoir une entité cohérente sur la Combe des Sous qu'on avait pu remettre en prairie. Donc ça, c'est un travail qui s'élabore avec la commune, parce qu'en fait, le département n'a pas forcément les moyens d'intervenir sur place, donc va confier un certain nombre de
missions,
de parcelles de travaux à la commune. La commune, on peut sous-traiter soit à des entreprises, soit avec la société de chasse pour des entretiens. Et puis après, il y a d'autres parcelles qui sont mises à disposition des agriculteurs. Et ces parcelles mises à disposition des agriculteurs, le département apporte un soutien logistique, on va dire, à l'exploitation de ces parcelles, donc avec des règlements. Et là aussi, se fait en accord, bien sûr, avec la commune. C'est là où, voilà, faut avoir de l'entente, sinon il n'y a plus rien qu'à.
Est-ce que l'ancienne Grande de Brume à la Côte Sauvage va devenir un musée? Est-ce que c'est une compétence du département? Est-ce que vous avez des subventions du département pour, on peut dire, embellir ce lieu? Ou réembellir ce lieu?
Ouais. En fait, le département a pas tellement de terrain en bord de côte, c'est plutôt la commune, sauf à un secteur, et là, en l'occurrence, la pointe du But appartient au département. Donc on a eu un plan de réhabilitation communal, hein, sur le site, avec, on avait fait une table d'orientation, et dans le projet communal, on avait souhaité que la Corne de Brume soit dévolue à un musée plutôt tourné autour du naufrage, du sauvetage en mer, parce que voilà, c'est un lieu, la pointe du But, les Chiens Perrins, où il y a eu beaucoup de fortunes de mer, malheureusement, et de rappeler voilà, qu'outre le paysage, la mer, c'est aussi des drames, et c'était de le rappeler. Donc le département, ça y est, a enclenché la restauration, et la restauration pour en confier la gestion à la commune. Donc encore une fois, là aussi, c'est important.
Cette restauration va commencer quand?
Elle va commencer cet automne, normalement, parce que les entreprises ont été retenues.
Compétence importante pour le département, vous nous en avez parlé, c'est les personnes âgées. Où en êtes-vous du rapprochement des deux EHPAD?
Alors, sur ce...
Après, je vous passe la parole, Carole Charbon.
Ouais, ce regroupement, bon, est porté par la commune, hein, parce que l'EHPAD appartient au CCAS. Néanmoins, toute sa gestion, les prix de journée, etc., c'est un règlement départemental. Donc là aussi, il y a des négociations en cours. C'est pas un dossier simple, voilà. Et le bâtiment des Chênes Verts appartient à Vendée Habitat. Donc c'est Vendée Habitat qui va réaliser
ce programme,
cette extension. Donc le programme est
enclenché.
Ouais, plus qu'enclenché, oui. Il est en cours de finalisation. Ça a pris un petit peu de retard, cette finalisation.
Parce que ça fait 6 ans qu'on en parle.
Oui, oui.
Que vous en parlez.
Oui, pour des raisons internes à Vendée Habitat. Non, mais ça fait 6 ans aussi que Vendée Habitat recense les besoins. Il y a des diagnostics qui ont été faits, etc., etc. Et il fallait surtout qu'on ait l'accord du département pour réaliser ces travaux, parce que ça va impacter le prix de journée et comment ça va l'impacter, etc.
Le nombre de places, en 2018, on a eu seulement en 2018 le nombre de places, qui est très important, ce nombre de places. C'est-à-dire les 95 places permanentes. Il y a aussi...
95 places permanentes dans les deux EHPAD.
Ouais.
Oui, mais en fait, quand ce sera regroupé.
Quand ce sera regroupé.
3 places d'hébergement temporaire et 3 places d'accueil de jour pour les personnes désorientées.
Parallèlement, comme on avait une diminution un petit peu de la capacité, on a eu l'accord de faire une expérimentation à côté de l'EHPAD d'une résidence autonomie qui sera en lien avec l'EHPAD.
Donc, ça veut dire que les personnes seront seules chez elles.
C'est ça, mais pourront avoir les
appels malades,
etc. Donc ce sera encadré. Et donc nous, c'est une évolution qu'on voulait donner, et donc on a eu l'accord. Après, la réalisation d'un programme, enfin on le voit bien, hein, sur des équipements communaux comme le pôle solidarité ou le pôle culturel, ça prend des années, c'est quand même pas simple, et surtout sur un bâtiment qui est comme celui-ci, comme celui des EHPAD. Maintenant, le Vendée Habitat arrive à la finalisation de ce cahier des charges de consultation des entreprises, donc voilà, les travaux vont pouvoir commencer. Alors, je sais, c'est long, tout ce qui est études, on a l'impression que ça bouge pas, mais si, bien sûr que ça avance, et on va aller au bout de ce projet-là et, aussi.
Et justement, oui, pardon, je vous coupe, mais par rapport à ça, c'est qu'on peut dire qu'on va militer vraiment très durement là, cette année, mais il faut que ça se fasse, hein. C'est l'accueil de jour. C'est-à-dire que là, on a 3 places d'accueil de jour pour les personnes désorientées. Et il faut absolument que d'ici la fin de l'année, on ait un accueil de jour peut-être temporaire, mais n'empêche qu'il faut qu'il y ait des places comme ça pour des gens. Il y a des familles en souffrance, il faut absolument les aider. Aider les aidants, en fait, qui s'épuisent souvent. Et donc, d'ici la fin de l'année...
Les accueils de jour, pour faire simple, c'est pour soulager les aidants.
C'est vraiment... du répit pour les aidants, pour qu'ils se reposent, quoi, tout simplement. Donc, ils laissent le malade dans la structure pendant toute la journée, et puis comme ça, ils peuvent le récupérer le soir. Et d'ailleurs, il y a des transports qui seront bien sûr organisés, etc. Mais je pense qu'on va pouvoir, là, on est en train de travailler assez durement dessus, je pense qu'on va pouvoir le concrétiser.
Bruno Nourry.
Non, je voulais pas rajouter dessus, je pense qu'il y a encore d'autres questions avant.
Pour en revenir un petit peu rapidement au regroupement des EHPAD, ce projet sera finalisé quand ? Est-ce que vous avez une date ?
On doit valider en octobre le programme définitif avec le CCAS, donc pour lancer la consultation fin d'année, début d'année prochaine, en sachant que derrière, il faut compter 3 à 4 ans de travaux.
L'hélicoptère, est-ce que ça fait partie des compétences du département pour notamment les évacuations sanitaires ?
Alors, c'est pas vraiment des compétences, c'est plutôt un combat qu'on a mené en 2016 parce que je rappelle l'historique,
un tout petit historique,
c'est-à-dire qu'en 2016, il y a eu une directive européenne qui a imposé en fait deux pilotes dans un hélicoptère pour faire une évacuation sanitaire. Sauf que nous, notre hélicoptère, on pouvait en mettre qu'un. Donc ça impliquait que Oya Vendée Hélicoptère achète un autre hélicoptère. C'est très cher, un hélicoptère. Donc, un deuxième pilote, il faut le payer, etc. Donc, le prix des évacuations sanitaires a explosé, enfin, dans le projet. Donc, on s'est battu pour que ces évacuations sanitaires soient à partir de l'île-Dieu, parce que, en fait, l'Agence régionale de santé voulait que ces évacuations se fassent à partir du continent, c'est-à-dire,
à partir de Chaland, par exemple.
Ouais, c'était à partir surtout de Nantes. Donc, ils venaient, etc., prenaient le patient.
Une perte de temps pour le patient.
Alors, soit une perte de temps, puis surtout.
C'est ce qui s'est passé pendant 6 mois, en 2016.
Voilà.
Rappelons-nous,
et ce qui s'est passé en 2016, ça veut dire 8 accouchements sur place. Non mais c'est dramatique, je veux dire. En 2022, là, le contrat arrive à échéance, il va falloir encore se battre, on est prêt.
Ouais.
On est prêt, on va y aller jusqu'au bout, on veut que ce cordon soit toujours pérenne, et pour que le département, la région, tout le monde s'y met et mette...
Ouais, ça, il faudra vraiment le porter, parce que on sait bien, c'est ça, c'est aussi le ticket modérateur, donc la contrepartie du...
Le ticket tarifaire. Modérateur, c'est pour avoir un tarif filé.
Ouais, c'est
pour
ça.
Pour l'hélicoptère,
ouais,
par exemple.
C'est ça. Donc là, il y a eu, je veux dire, un cofinancement entre région et département, aussi bien sur l'acquisition du bimoteur, mais aussi sur ces tarifs. Et je crois que c'est important de les maintenir. Donc on se battra pour, bien sûr.
Le département détient également la compétence des collèges de l'Île-Dieu. Quelles sont vos propositions pour ces deux collèges ?
Alors, c'est surtout pour le collège
des Sicardières.
Des Sicardières et même de Notre-Dame-du-Port. Ouais. Parce qu'en fait, le département subventionne et est propriétaire des murs du collège public. Par contre, dans les collèges privés, il n'est pas propriétaire des murs, mais par contre, il subventionne le fonctionnement et même l'investissement un petit peu du collège privé. Notre proposition, là, notre combat là pour les 6 ans qui viennent, enfin les 7 ans, puisque ça sera 7 ans, ça sera surtout que le contrat d'insularité puisse inclure ces deux collèges pour que les problématiques insulaires soient plus prises en compte.
Est-ce que les collégiens ne sont pas pris en compte par le département, ce que vous nous dites ?
Mais non. Bah en fait, ce contrat d'insularité.
J'ai entendu comme ça. C'est pour ça que je pose la question.
Non, le contrat d'insularité, en fait, il est, l'ancien, c'était surtout les écoles primaires qui étaient dedans. Et en fait, il faut inclure absolument le collège parce que il faut qu'il y ait une sorte de transport. Il y a déjà des transports, mais qui soit vraiment pris en compte, quoi.
Ouais, beaucoup mieux pris en compte. Mieux. Ça, c'est important, à l'instar de ce qui se passe pour le primaire avec la commune.
Voilà.
Le SDIS et les pompiers, va-t-il y avoir de nouveaux pompiers professionnels sur l'Île-Dieu ?
Il y a 4 postes, donc on avait réussi à obtenir un poste.
À l'année ?
Ouais, un poste supplémentaire, ça c'est important. Après, le département accompagne beaucoup le SDIS dans les investissements au niveau de la Vendée, avec un œil particulier sur les équipements de l'Île-Dieu. Donc il y avait eu le
grand camion. Qui est passé par le Maxi Plomb d'ailleurs.
Les échelles, etc. Donc on y veille, bien sûr.
Il vous reste 2 minutes. Je vous laisse ces 2 minutes de temps de parole pour vous exprimer librement. On va laisser 1 minute à Bruno Nourry et ensuite 1 minute à Caroche Charreau. Bruno Nourry, on vous écoute.
Oui, moi je voudrais vraiment appeler les gens à venir voter. Vous votez pour qui vous voulez, bien sûr. Mais vous savez, on s'est battu pour avoir gardé notre canton insulaire. Les Bretons ont tous perdu leur canton insulaire. On est le dernier canton insulaire. Alors, on est un tout petit canton avec 5000 habitants, quand sur le continent, le canton moyen, c'est 40 000 habitants. C'est important pour les lieux, hein, on l'a dit tout au long de l'émission, mais pour nous donner la légitimité, pour donner du poids, pour montrer votre attachement à ce canton, à pouvoir porter la voix de l'Île-Dieu sur le continent, c'est important de venir voter pour donner vraiment du sens à cette action. Ça donnera du poids à toutes nos négociations, à tous nos relations avec le département, parce que je peux vous dire que ces taux de participation seront regardés, et vraiment la légitimité, que ce soit les uns ou les autres, on la tiendra du taux de participation, donc venez voter.
Carole Charouf, oui, il vous reste 53 secondes.
En tout cas, oui, par rapport à... Faites-nous confiance par rapport à notre engagement vis-à-vis du département. On y met du cœur, on y met du temps, beaucoup de temps. On y met de l'engagement vraiment. On voit par rapport aux intérêts des îlets, du bien-être des îlets. Moi, ce qui m'anime, c'est vraiment le bien-être des îlets. Je suis attentive lors des réunions à ce que l'Île-Dieu ne soit pas oubliée. Elle n'est jamais oubliée, mais des fois, il y a des petits trucs qui passent pas. Donc, on est attentif. Donc, non, mais c'est souvent des petits oublis. Donc, voilà, c'est des petites rectifications qui font que l'Île-Dieu, est vraiment fait partie de la Vendée.
Bruno Nourry, il vous reste 11 secondes, si vous voulez.
Non, mais merci à tous de nous avoir fait confiance sur ce précédent mandat. On demande à pouvoir renouveler cette confiance. Vous nous avez lu il y a un an au municipal. Donnez-nous vraiment le gage pour qu'on puisse porter la voix de la commune au département sur ce mandat et défendre les intérêts de la commune et de ses habitants.
Carole Charreau et Bruno Nourry se présentent aux élections départementales qui ont lieu les dimanches 20 et 27 juin prochains. Merci à vous deux d'être venus sur Neptune FM.
Merci.